son image. Oui, il les créa pour qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maître et dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes. » Et Dieu dit « Voici, je vous donne pour vous en nourriture toute plante portant sa semence partout sur la terre. » Et tous les arbres fruitiers portant leurs semences. Je donne aussi à tout animal vivant sur la terre, aux oiseaux du ciel, à tout animal qui se meut à ras de terre, et à tout être vivant, toute plante verte, pour qu'il s'en nourrisse. Et ce fut ainsi. Alors, cet après-midi, on va regarder ces versets. Les versets bibliques sont toujours très... On peut regarder les versets sous plusieurs angles. Et cet après-midi, le thème, c'est la dignité humaine. Donc, on va regarder ces versets sous l'angle de la dignité humaine. Et tout de suite, en commençant, on voit que le Seigneur dit, déjà, il parle au pluriel, faisant l'homme, faisant les hommes. Pour qu'ils soient notre image. Faire les hommes pour qu'ils soient l'image de Dieu. Mais au fond, l'homme, qu'est-il vraiment? Dans Colossiens 1, 15, il nous est tout de suite dit que l'homme est, que Dieu, que Jésus, est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Pourquoi commencer par le texte de Colossiens 1? Parce qu'en fait, si vous voyez la création sans voir Jésus, vous ne pouvez pas comprendre la création. Lorsque Dieu crée les hommes, ici il est dit hommes et femmes, il les crée avec une image. Mais de quelle image est-il question? L'image dont il est question, c'est l'image de Jésus-Christ. Parce que cette image existe depuis. C'est de cette image, en fait, que l'homme est tiré. Et c'est de cette image que nous avons désormais les hommes. C'est pour cela que Moïse, le texte que nous venons de lire, a vu dans le buisson ardent un homme. C'est pour cela que Josué voit un homme. C'est pour ça que les petits compagnons de Daniel voient un homme. Cet homme n'est autre que Jésus-Christ. Et donc, déjà, il faut comprendre que nous sommes créés à l'image de Jésus-Christ. Et donc, nous sommes créés à l'image de Dieu. L'être humain est créé à l'image de Dieu. Parce que vous voyez, là aussi, c'est une vérité que la parole nous enseigne. Nous sommes créés corps, âme et esprit. Ce que vous voyez en face de vous, c'est le corps. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est l'âme. Ce que vous ne voyez pas non plus, c'est l'esprit, qui n'est pas visible avec les yeux que nous avons. Le Seigneur aussi est en toi. Jean 1, versets 1 à 2. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu et il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Tout a été créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Le texte de Genèse rappelle que l'Esprit de Dieu se mouvait. Et donc on voit Dieu qui est unique, mais on voit aussi Dieu qui a sa parole qui agit. On voit aussi son Esprit qui agit. Il en est de même pour l'être humain. 1 Thessaloniciens 5, 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est Paul qui écrit à l'église de Thessalonique et il leur dit que tout votre être soit conservé irrépréhensible. Et là, il définit c'est quoi l'être. L'être, c'est l'esprit, l'âme et le corps. Mais d'autres textes rappellent encore ce qu'est l'homme. Psaume 8, versets 4 à 9. Des textes, je dirais que les pharisiens ont eu du mal à comprendre. Ces textes sont difficiles et sans l'Esprit de Dieu, on ne peut pas les comprendre. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers de mer. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. L'homme est un être glorieux, créé par Dieu. L'homme est un être glorieux. Et lorsque Jésus, dans une conversation avec les pharisiens, leur présente le psaume 82, cite, « Si vous êtes des dieux, oui, vous tous, vous êtes des fils du Très-Haut », ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas ce langage. Pourquoi ? Parce que la difficulté est déjà de comprendre la création première du Seigneur. L'homme est couronné de gloire. C'est pour ça que Satan l'attaque, parce que Satan ne supporte pas la gloire qu'on a donnée à l'homme. Donc, il va venir faire une usurpation dans le jardin d'Éden. Retenez bien que nous sommes des êtres glorieux, créés à l'image de Dieu, homme comme femme. J'insiste. Mais que s'est-il passé au moment de la désobéissance? Eh bien, effectivement, lorsque l'homme va faire ce qui ne plaît pas à Dieu, vous connaissez l'histoire où Ève prend le fruit incité par le serpent et ensuite le donne à Adam, on voit déjà la tendance à faire le contraire de ce que Dieu dit. Pourtant, là, ils n'ont pas encore mangé le fruit, hein. C'est perturbant quand même. Ils n'ont pas encore mangé le fruit, mais on voit déjà qu'il y a une tendance à faire le contraire de ce que Dieu dit. Vous me direz, ils ne sont pas les seuls. Les anges déchus aussi ont eu la tendance à faire le contraire de ce que Dieu veut. Genèse 3, 1 à 8. Le serpent était le plus tortueux de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il demanda à la femme, vraiment, Dieu vous a dit, ne mangez pas du fruit d'aucun des arbres du jardin. La femme répondit au serpent, nous mangeons des fruits des arbres du jardin, excepté du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu a dit de ne pas en manger et de ne pas y toucher, sinon nous mourrons. Alors le serpent dit à la femme, mais pas du tout, vous ne mourrez pas. Seulement Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Choisissant vous-même entre le bien et le mal. Alors la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable aux yeux, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit donc de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Aussitôt, les yeux de tous deux s'ouvrirent, et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Alors ils se firent des pagnes, en cousant ensemble des feuilles de figuier. Au moment de la brise du soir, ils entendirent l'Éternel Dieu parcourant le jardin. Alors l'homme et la femme se cachèrent de l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. C'est à ce moment-là que l'homme perd sa dignité. Parce que vous devez bien comprendre que le lien avec Dieu, c'est le lien qui rend l'homme glorieux. Mais lorsque le lien avec Dieu se coupe, et lorsque le péché entre, parce que le péché n'entre pas seul, il y a une cascade de choses qui entrent avec le péché. Il n'y a pas que la mort. Il y a plusieurs déformations dans l'homme désormais. Il en avait déjà juste avant de pécher. La difficulté à faire la volonté de Dieu. Mais là, il y a d'autres choses qui vont désormais entrer dans le monde. Dieu va désormais voir l'homme à distance parce que l'homme va être imbibé du péché. C'est très surprenant d'être dans un monde où très vite l'homme a vu qu'il y avait une véritable inégalité entre celui qui naît au nord, celui qui naît au sud, celui qui naît à l'est, celui qui naît à l'ouest. Et quelle va être la réponse de l'homme à ça? On dit dans les sociétés évoluées qu'on a la déclaration des droits de l'homme. Ça, c'est aussi une façon pour l'homme de se dédommager. L'homme ne change pas. Dans le jardin d'Éden, l'épisode après avoir pris le fruit, je n'ai pas lu la partie où chacun s'accuse. Adam dit c'est la femme dit c'est le serpent se retourne, bon, à qui je vais ? Bon, c'est moi. Bon. Et du coup, l'homme veut se dédouaner. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va dire, oui, ma société a évolué, moi je vais faire les déclarations des droits de l'homme. Pourquoi pas ? Mais connaissez-vous un seul pays où cette déclaration des droits de l'homme est respectée ? Un seul pays sur Terre. S'il faut quitter cette planète, peut-être, on peut aller dans les lieux déserts où il n'y a pas besoin d'appliquer les déclarations de droits de l'homme. Mais il n'existe aucun pays dans ce monde où cette déclaration bien écrite est respectée. Puisque les hommes naissent pour Dieu égaux, les hommes naissent pour les hommes non égaux, différents. Dieu a créé des hommes libres, des hommes couronnés de gloire, égaux. Mais l'homme en a fait, avec le serpent qui est venu tout perturber, des hommes complètement différents. Il y a une véritable différence. Je travaille dans les assurances et même dans les remboursements, suivant les nationalités, ce n'est pas la même chose. C'est fou quand même, hein, d'être dans un monde où définitivement ta nationalité, ta race, ta culture, ta religion fait de toi quelqu'un de différent. Était-ce le plan de Dieu ? Non, non, ce n'est pas le plan de Dieu. L'homme vit désormais dans le mensonge. Le mensonge est celui de faire croire que nous sommes égaux, tout va bien. Tout va bien. Nous sommes totalement égaux. Est-ce que lorsqu'un Africain meurt, ça a la même connotation qu'un Français qui meurt ? Est-ce que ça a la même connotation qu'un Chinois qui meurt ? Est-ce que ça a la même connotation qu'un Pakistanais qui meurt ? Arrêtons le mensonge. Ce n'est pas vrai. Ça n'a pas la même incidence. Ce n'est pas la même chose. Voici le monde désagréable que l'homme veut ériger comme un système qui fonctionne bien. Et pourtant, c'est une catastrophe. C'est une véritable catastrophe. Maintenant, la question peut être posée, est-ce que les hommes sont-ils frères ? Dans Genèse 9, Noé se retrouve devant ses enfants et il y a un de ses fils qui va rire de la nudité de son père. En riant de la nudité de son père, Noé va maudire ce fils. Il y a des hommes de Dieu qui ont lu ce texte, qui ont pris ce texte et ont dit que certaines races étaient maudites parce que Noé avait maudit un de ses fils. Vous comprenez que cette Bible, sans l'Esprit de Dieu, on peut délirer pendant très longtemps. Parce que cette Bible, c'est la vérité. Encore faut-il accepter la vérité. Noé dit à son fils, « Je te maudis, tu seras esclave de tes frères. » Mais ça s'est produit. Ça s'est produit dans l'Ancien Testament. Pourquoi on veut que cette prophétie se réalise bien plus tard ? Certains ont justifié l'esclavage avec ce texte. Mais ils ont oublié de lire la suite de Noé 9, de Genèse 9. Parce qu'en fait, les frères du fils de Noé, de Cham, vont dominer justement les Israélites qui vont dominer sur les Hittites, les Amoréens. Mais c'est cela la descendance de Cham. Encore faut-il lire la parole. Mais quand on prend la parole de Dieu, on la regarde que sous un angle. On peut même faire le contraire de ce que Dieu attend de nous. Oui, les hommes sont égaux. Oui, les hommes naissent égaux selon le plan de Dieu. Il n'y a aucun texte qui fait apparaître que Dieu veut que les hommes naissent différents. Il n'y en a pas. Maintenant, l'homme, comme il a toujours du mal à assumer sa volonté, il faut bien qu'il trouve un moyen par lequel il peut faire passer cette histoire de dire il y en a qui sont supérieurs et il y en a qui ne sont pas supérieurs. Un texte très intéressant, c'est celui de 1 Corinthiens 11. Parce qu'au-delà de parler de l'égalité entre les hommes, on peut aussi parler de l'inégalité entre hommes et femmes. On ne sait pas d'où ça vient, ça aussi. On ne sait pas d'où ça vient. Qui les a créés, n'est-ce pas Dieu ? Dieu a-t-il dit que la femme doit être inférieure à l'homme ? Mais le malin veut que ça se passe comme ça. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Lisez par vous-même. 1 Corinthiens 11, à partir du verset 2. « Je vous félicite de vous souvenir de moi en toute occasion et de maintenir fidèlement les traditions que je vous ai transmises. Je voudrais cependant attirer votre attention sur un point. Le Christ est le chef de tout homme. L'homme est le chef de la femme. Le chef du Christ, c'est Dieu. Si donc un homme prie ou prophétise la tête couverte, il outrage son chef. Mais si une femme prie ou prophétise la tête non couverte, elle outrage son chef à elle, car elle se place ainsi sur le même plan qu'une femme tendue. Si donc une femme ne se couvre pas la tête, pourquoi alors ne se fait-elle pas aussi tendre les cheveux ? Mais s'il est honteux pour une femme d'être tendue ou rasée, qu'elle se couvre donc la tête. L'homme ne doit pas avoir la tête couverte puisqu'il est l'image de Dieu et reflète sa gloire. La femme, elle, est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme à cause de l'homme. Voilà pourquoi la femme doit porter sur la tête un signe de son autorité à cause des anges. Toutefois, dans l'ordre établi dans le Seigneur, la femme n'existe pas sans l'homme et l'homme n'existe pas sans la femme. Car si la femme a été tirée de l'homme, celui-ci à son tour naît de la femme. Et finalement, tous deux doivent leur vie à Dieu. Cherchez l'inégalité entre les deux. Vous voyez, quand on lit ce texte, on tombe dans un travers. Ce n'est pas parce qu'on a dit que l'homme va avoir autorité sur sa femme que l'homme n'est pas égal à sa femme. C'est du français, là. Les rôles sont différents. Mais il y a une parfaite égalité. C'est le plan de Dieu. C'est pas parce que j'ai un rôle différent que je vais être supérieur à l'autre. Vous voyez comment le péché, lorsqu'il entre dans le monde, il peut travertir la pensée de Dieu. Lorsqu'on lit ce texte, mais beaucoup ont utilisé ce texte pour dire, ah, vous voyez les femmes, vous devez avoir une certaine position, vous devez... Bon, très bien, pas mal. Mais il y a un autre texte qu'il faut se souvenir. Pourquoi Dieu a créé la femme ? Dieu a dit, je vais te donner une aide. Il a créé la femme. Lorsque vous entrez dans une maison et que vous voyez qu'une femme travaille, s'occupe des enfants, nettoie la maison, sort les poubelles, toutes ces choses, est-ce que c'est une aide ou c'est elle qui est devenue l'homme ? Dieu a dit, je te mets une aide. Attention, il n'a pas dit, je te mets quelqu'un qui va tout faire. Non, c'est toi qui fais tout, c'est toi l'homme, chacun son rôle. C'est toi qui dois faire, tout faire et la femme est là pour t'aider. Ça, ce texte-là, on n'en parle pas beaucoup. Hein. Mais par contre, dire, il faut se couvrir, ça, par contre, il n'y a aucun problème. Vous voyez comment, de par nature, nous avons une tendance à déformer ce que Dieu dit. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu vas déformer jusqu'à la fin ce que Dieu a dit. La pensée de Dieu, il faut la recevoir. Que veut le Seigneur ? Galates 3, 28. Un texte encore déformé, mais je vous le lis. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Là, on est sur des questions spirituelles. Le regard de Dieu est un regard spirituel. Ce n'est pas parce que les rôles sont différents qu'on va penser qu'un grec est mieux qu'un juif ou qu'un juif est mieux qu'un grec. Mais il le dit, il n'y a plus, il n'y a plus, il n'y a plus. Devant Dieu, ne vous attendez pas à arriver au paradis et à voir que des noirs, que des blancs. Non, ça ne sera pas le paradis, c'est l'enfer, là. Cette distinction, c'est en enfer. Ça, vous êtes sûr que si vous voyez ça, c'est l'enfer. Ce n'est pas le paradis. Parce que Dieu, dans 1 Corinthiens 11, l'apôtre Paul rappelle aussi, est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? C'est Dieu qui crée. S'il ne fallait pas qu'il y ait certaines personnes qui existent, Dieu n'allait pas les créer. Mais comme Dieu les a créées, c'est un enseignement de Dieu pour que toutes ces personnes soient acceptées. Les rôles peuvent être différents, mais cela ne signifie pas qu'on est au-dessus. L'homme et la femme sont égaux, avec des rôles différents. Vous pouvez lire Éphésiens 5. Il y a des rôles différents dans le mariage, mais ça permet l'équilibre. Mais ça ne signifie pas qu'il n'y a pas une égalité entre l'homme et la femme. Et c'est très surprenant de voir aujourd'hui, dans le milieu du travail, qu'il y a beaucoup de questions qui commencent à remonter pour donner des responsabilités à des femmes. Ah, ils ont attendu longtemps pour comprendre ça. Mais c'est biblique. Mais c'est biblique que des femmes aient des responsabilités dans des entreprises. Mais par contre, ne vous y trompez pas. Dans la maison de Dieu, on a dit... C'est écrit dans Timothée, il faut obéir, c'est-à-dire quand Jésus dit « Soyez comme des enfants », il faut obéir, tu as lu, tu obéis. Ne cherche pas à réinterpréter pour dire « Ah, finalement, moi, je pense que sous cet angle-là, il a voulu dire » Non, tu as lu, tu obéis. Il a dit « Les anciens sont des hommes », mais les anciens sont des hommes. Ne cherchez pas à mettre une femme ancienne, vous êtes en contradiction avec ce que Dieu dit. Mais ça ne signifie pas que parce que les anciens sont des hommes, c'est qu'ils ne sont plus en égalité avec les femmes qui peuvent être diacres. Ça, c'est notre travers. C'est une confusion, mais c'est vraiment profond, hein, de voir cette confusion qui existe à vouloir tordre ce que le Seigneur a écrit, ce que le Père a écrit. Et vous savez, la dignité perdue dans le jardin d'Éden, il est possible de la retrouver. Et ce soir, si peut-être parmi nous, il y a quelqu'un qui se sent mal dans sa peau, et il y a peut-être quelqu'un qui n'a pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, je t'invite à la fin du message à venir. Parce que ce message s'adresse aussi à toi. Peut-être que dans ta vie, tu as subi des choses. Peut-être que tu as fait subir des choses. Mais voyez-vous, le Seigneur est un Dieu de pardon. C'est ça sa qualité. C'est un Dieu d'amour. Il veut te pardonner et il veut t'emmener avec lui pour l'éternité. Et il est possible d'être restauré. Et pour être restauré, pour retrouver cette dignité qui avait été perdue dans le jardin d'Éden, eh bien, on commence par reconnaître qu'on est pécheur. On commence par reconnaître qu'on est pécheur. Vous savez, la conversion, ce n'est pas indexer les autres. La conversion, c'est s'indexer soi-même. De voir ce qu'on est réellement au plus profond de soi. Parce que Dieu connaît ton cœur. Ça, c'est aussi une particularité. Dans 1 Samuel 16, le Seigneur le rappelle. Je connais ton cœur. Tu peux cacher à des gens que tu as ce problème de te regarder comme supérieur ou de te regarder comme inférieur. Mais Dieu connaît ton cœur. Il y a quelqu'un à qui tu ne peux pas cacher. Ça, c'est Dieu. Et il est temps de le présenter, nos infirmités. Parce que Jésus s'est chargé de nos infirmités. Si jamais il y a ce problème dans ta vie, je t'invite à prier dans ce sens pour que Dieu te délivre de ce regard qui n'est pas un regard d'un enfant de Dieu. Dans chaque homme, il y a la création de Dieu. Donc tous les hommes sont dignes de respect. Tous les hommes sont dignes d'être respectés. Et d'ailleurs, voyez-vous, la divinité de Christ s'affirme dans la parole qu'il dit. Lorsqu'il rencontre les pharisiens, lorsqu'il les voit, il leur dit « Mais vous savez que les commandements sont résumés en deux. » Ils sont paniqués. Mais oui, c'est résumé en deux. Il y a une partie pour adorer Dieu, mais il y a une autre partie pour respecter l'homme. C'est ça les commandements de Dieu. Tu adores Dieu, Mais il y a une autre partie qui est consacrée au respect de l'être humain que Dieu a créé. Ils sont paniqués quand ils entendent ça. Pourquoi ? Salomon, dans toute sa sagesse, dans toute sa connaissance, n'a pas pu résumer la loi, la divinité de Christ. Christ est Dieu. Un homme ne peut pas faire ça. Arriver à résumer la pensée de Dieu avec autant de puissance. Accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est lui la restauration. Nous venons tous d'Adam, mais Jésus est le nouvel Adam. Par lui, on redevient fils de Dieu. Par lui, on repart dans le jardin d'Éden pour avoir une véritable relation avec le Père, pour être couronné, pour entrer dans une famille spirituelle. Tout à l'heure, on a dit les hommes sont frères et sœurs parce que nous venons tous d'Adam. Mais dans la foi, il y a une différence. Attention. Celui qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur fait partie d'une nouvelle famille, celle que Dieu a destinée à régner sur la terre et à régner pour l'éternité. Romains 13, versets 8 à 10. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Il faut être restauré. Être restauré, c'est ne plus agir par la chair, mais par l'esprit. Lorsqu'on agit par la chair, on est un animal. C'est la Bible qui le dit. Un raciste est un animal. Si tu te sens supérieur ou inférieur, tu fonctionnes comme un animal. Parce que les animaux, la nature nous enseigne, comme vous les voyez, quand ils voient un lion, la biche se barre, hein, parce qu'elle sait très bien qu'ils ne sont pas égaux. Hein. Et donc, l'effet de pensée raciste ramène l'homme à son état animal, parce que lorsqu'il a été privé de sa gloire dans le jardin d'Éden, il est devenu un animal. Et aujourd'hui, l'homme se comporte comme un animal. Nous sommes dans un monde immonde. C'est immonde de voir autant de gens souffrir. C'est immonde de penser qu'on dort et qu'il y a des enfants qui sont torse nus dans des rues et qui n'ont pas à manger. C'est immonde. C'est intolérable. C'est immonde de voir un monde avec autant de violence. Mais à la télé, on nous passe des belles images. Sur TF1, Miss France, Miss ceci, tout ça. Tout va bien, tout va même très bien. C'est immonde de voir autant de guerres, autant de famines. L'homme a besoin d'être restauré. Et la restauration passe par le fait d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur et que la vie change. On ne peut pas accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur et ta vie ne change pas d'année en année. Ça veut dire que tu ne l'as pas accepté. Il faut que ça change. On ne peut pas être le même au bout de 20 ans, toujours le même. Ce n'est pas possible. Parce que le Seigneur te restaure. Parce que son esprit travaille en toi pour te changer. Ne sois pas ébloui par la connaissance des serviteurs de Dieu. Vous voyez, ça aussi, c'est un travers. Quand j'écoutais certaines prédications, je me disais à chaque fois, oh là 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 là, mais quelle connaissance il a, mais c'est incroyable, il connaît pratiquement la Bible par cœur. Non, c'est un travers. Sois ébloui par l'action de l'Esprit Saint sur cette personne. C'est Dieu qui fait, personne d'autre. On est dans un monde où à chaque fois, il faut applaudir des stars, le président star, ceci star. Non, pour nous, la superstar, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre star, il n'y a personne d'autre. Parce que personne ne peut faire ce que Jésus a fait. L'accès que tu as au Père aujourd'hui, c'est grâce à Jésus. La conversion de Paul, Dieu lui a dit, les écailles de tes yeux vont tomber. Et tu vas désormais voir que les écailles des yeux tombent réellement pour pouvoir voir comme le Seigneur voit, pour pouvoir être à l'image de Dieu. Il y a quelques mois, J'ai entendu l'histoire en Afrique, notamment au Congo-Brazzaville, une histoire assez triste. Il y a quelques années, vous savez, au Congo-Brazzaville, dans les forêts, il y a des hommes de petite taille, des hommes noirs de petite taille, qu'on appelle des pygmées. Lorsque l'évangile est arrivé dans les forêts, ces hommes ont commencé à sortir de la forêt pour aller écouter la bonne nouvelle. Et même quand ils allaient dans des églises pour écouter la bonne nouvelle, ils étaient toujours marginalisés parce que pour les personnes qui habitaient là, ce sont des esclaves, ce sont des moins que rien. Ils n'ont pas leur place à côté. Quelques années plus tard, une de ces personnes qui avait été touchée par l'esprit a fait des études pour devenir pasteur. Imaginez la catastrophe dans l'église pour accepter un pasteur nain. Les gens ont eu du mal, les gens ont refusé d'accepter un pasteur nain. Mais lorsqu'on agit comme ça, est-ce qu'on agit en tant qu'enfant de Dieu ou on agit en tant que fils du diable? Attention à la façon dont le malin peut pénétrer l'église pour faire des choses qui sont contraires à la volonté du Père. Les croyants de Béret passaient leur temps à lire. Quand la personne prêchait, ils étaient là en train de lire. Quel verset il a dit? C'est biblique ça? Non, c'est pas biblique. Dis-nous frère, quel est ce verset que tu emploies? Il faut être attaché à la parole de Dieu. On peut tout vous prendre. J'ai suivi une fois un militaire, un diaz américain en Irak qui était filmé par des caméras et on lui disait « Mais vous n'avez pas peur avec tous ces attentats autour de vous ?» Il a dit, il a montré son arme, il a dit « Tant que j'ai ça, j'ai pas peur. J'ai pas peur, il peut y avoir des attentats, mais tant que j'ai cette arme, je n'ai pas peur. Mais pour nous, tant que nous avons la Bible, tant que je lis la Bible et que je mets en pratique, je ne peux pas avoir peur de la mauvaise doctrine. Je ne peux pas avoir peur du racisme. Je ne peux pas avoir peur de toutes les attitudes qui sont contraires à la parole de Dieu. Parce que ceux qui les pratiquent ne sont pas de Dieu. Il ne faut pas confondre. Il ne faut pas confondre. Quand quelqu'un a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, que dit la parole? Il devient une nouvelle. Amen. Les choses anciennes sont et toutes choses sont devenues. Alléluia. Eh bien voilà, il faut bien que quelque chose change. On ne peut pas être le même. Lorsqu'on a croisé Christ, on ne peut pas être le même. Paul n'était plus le même. Pierre n'était plus le même. Moïse n'était plus le même. Souvenez-vous, celui qui bégaye et qui a peur a affronté Pharaon. La Bible est un livre utile. C'est pour ça que Josué dit que ce livre ne s'éloigne pas de toi, de ta maison, que ce livre ne s'éloigne pas de ta maison. Que toute ton énergie, tu la mettes en pratique pour essayer de satisfaire ce que Dieu dit. Mais la Bible est un livre, c'est vraiment magnifique. Franchement, moi j'aime le Seigneur parce que même dans la virgule qu'il y a dans la Bible, tu trouves une satisfaction. Un texte, le texte de Philémon. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Philémon et Onésime. Paul va traiter un cas dans lequel il y a Philémon le maître, Onésime l'esclave. Mais c'est biblique, c'est curieux quand même, dans le Nouveau Testament, d'avoir des textes qui parlent de Philémon et Onésime. Mais quand vous lisez ce que Paul écrit à Philémon, vous ne pouvez que comprendre le Galates 3, 28 que nous venons de lire, en faisant comprendre à Philémon que c'est fini. Il n'y a plus ni maître ni esclave, c'est fini. Nous sommes dans l'amour du Christ. C'est l'amour du Christ qui domine. Parce qu'en fait, que nous explique la Bible? C'est que nous étions enchaînés par le péché. Et que désormais, nous sommes toujours enchaînés. Hein? Mais par Jésus. Par Jésus désormais. Avant, c'était le péché qui t'enchaînait. Mais maintenant, c'est Jésus. Et c'est pour ça que Paul dit à Philémon, mon bien-aimé, et il dit aussi à Onésime, mon bien-aimé, mon fils dans la foi. Vous comprenez? Il parle de fils et pourtant c'est un esclave. Effectivement, ces choses sautent. Ces choses sautent parce que ce n'est pas la volonté du Père. est la volonté du Père et que les hommes vivent. Vous avez lu ce que nous venons d'écrire. Que l'homme domine sur la terre, qu'il soit fécond. C'est ça que Dieu veut. Dieu n'a jamais voulu que l'homme vive dans le mal sur la terre. Ça, c'est le choix des hommes. Et vous savez qu'aujourd'hui encore, nous avons la possibilité d'arrêter le mal sur cette terre. Mais comme la terre est dominée par le mal, il n'y a que Christ, lorsqu'il reviendra, qui va arrêter tout ce qu'il y a de mal sur cette terre. Enfin, une dernière partie, que doit faire celui qui accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur ? La Bible est claire là-dessus, tu dois faire le bien. Tu ne dois pas faire le bien quand on te fait le bien, mais tu dois faire le bien même quand on te fait du mal. Ça, c'est la volonté de Dieu. Dieu t'attend sur le bien que tu fais autour de toi. Et même dans ton langage, les choses doivent changer. Parce que vous savez, cette langue, elle est prête à maudire, elle est prête à dire des choses. Mais Dieu veut que cette langue soit une source de bénédiction. Donc il faut bénir, même quelqu'un qui te persécute, il faut bénir. Volonté de Dieu. Il ne faut pas maudire. Et dans Matthieu 5, 44, on dit, bénissez même vos ennemis. Même vos ennemis. Pourquoi ? Mais pour ressembler au Père. Pour ressembler à Jésus. Parce que même sur la croix, ceux qui le persécutaient, ils étaient en train de le clouer, lui prier pour eux. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils sont en train de le tuer. Reflète l'image du Christ en bénissant, en ayant des actions sur les pauvres. Proverbe 14, 31. Mais surtout en ayant une action sur le partage de la bonne nouvelle. Ça, c'est extrêmement important. Si tu sais où jaillit l'eau vive et que tu ne la partages pas autour de toi, c'est grave. C'est grave. C'est ça qui est fondamental. C'est le Matthieu 28. Jésus attend de nous de proclamer cette bonne nouvelle parce qu'il y a des gens qui sont encore en Égypte. Vous savez que la marche de la sortie d'Égypte continue. Ça continue. Le Seigneur continue à sortir des peuples entiers, des familles entières de l'oppression du péché. 1 Timothée 2, 1 à 4. J'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et en tout respect. Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Si tu te poses la question de savoir, est-ce que cette partie du monde doit être évangélisée, tu as la réponse. Souvent, on cherche des visions. Mais quelle vision je dois avoir pour l'évangélisation? Quelle vision je dois avoir pour l'Église? C'est écrit dans la Bible. Ne cherche pas de vision, le diable va te donner une vision. C'est écrit dans la Bible, tu n'as qu'à lire et mettre en pratique ce que Dieu dit. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Eh bien, quand tu vois un homme, parle-lui de la bonne nouvelle. Aussi méchant soit-il. Il n'y a que Dieu qui peut te redonner une dignité. Ce n'est qu'en Jésus-Christ qu'on a une dignité. Ce n'est qu'en Jésus-Christ que ton regard de l'autre change. Si tu as Jésus en toi, ton regard de l'autre va changer. Ce n'est qu'en Jésus-Christ que tu admires la création chez l'autre et chez toi. Maintenant, il y a un aspect pratique. En conclusion, s'il y a des situations qui t'ont blessé, parce que tu t'es senti inférieur, il faut pardonner dans le nom de Jésus. S'il y a des situations dans lesquelles tu t'es senti supérieur, demande pardon à Dieu, parce que ce n'est pas de Dieu. Si tu te sens supérieur à quelqu'un, demande pardon à Dieu, parce que ce n'est pas de Dieu. Si tu te sens supérieur à une femme, demande pardon à Dieu, ce n'est pas de Dieu. Si tu te sens supérieur à un homme, demande pardon à Dieu. parce que ce n'est pas de Dieu. Ta pensée, Jésus te dit, même dans ta pensée, tu pèches. Que notre pensée, que nos pensées soient préservées, parce que le but, c'est de plaire à Dieu. C'est le seul but pour lequel nous sommes ici, c'est plaire à Jésus. Car personne d'autre ne peut faire ce qu'il a fait. Personne d'autre ne peut restaurer comme Christ a restauré. Et maintenant, si dans la salle, il y a des personnes qui ont choisi de suivre Jésus comme Seigneur et Sauveur, je vous invite à vous avancer avant qu'il n'y ait le chant. S'il y a des personnes qui ont besoin de prier parce qu'ils ont une difficulté par rapport au message qui vient d'être annoncé et qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas glorifié le Seigneur à un certain moment, je vous invite à la prière à la fin du message. Nous allons maintenant chanter ensemble. Nous allons nous lever pour chanter et ensuite nous allons faire la collecte pour l'association. Chantons ensemble maintenant.